Et bienvenue à Portrait Vivant, l'émission radio qui esquisse un tableau en mouvement de la communauté artistique de l'École d'art de Sutton. Ensemble, allons à la rencontre des artistes, des jeunes créateurs et des œuvres qui façonnent cette institution incontournable du paysage culturel de l'Estrie. Je m'appelle Ayona, artiste en art visuel. Mon parcours m'a menée aux quatre coins du monde, guidée par une quête d'apprentissage et de rencontres. J'ai fini par m'installer ici, en Estrie, où je découvre une véritable boîte au trésor de personnes engagées, passionnées par leur travail, avec des valeurs d'entraide et de coopération.
Aujourd'hui, on parle du Labo d'art.
Tous les dimanches de l'été, le Labo d'art offre des stations créatives adaptées aux enfants de tout âge. Les activités permettent d'explorer différents médiums et matériaux à votre rythme. Situé à l'École d'art de Sutton, en Estrie, le Labo d'art, c'est un moment suspendu pour créer librement, en famille, entre amis ou simplement pour soi. Le Labo d'art a été initié par l'artiste enseignante Cathy Cahill. Écoutons ce qu'elle a à dire à propos de ce magnifique projet.
My name is Cathy Cahill, and I was born in Montreal and have lived in the Eastern Township since 2005. I currently teach kindergarten at Sutton School. As a child, I was desperate to get my hands on art supplies of any kind. I remember on my 6th birthday receiving a present of felt tip markers and a coloring book. My mother had to drag me away from coloring a turtle and back to the party for cake. At the age of 10, I signed up for a lunch hour art lesson at school and got my first sketchbook and a set of oil pastels. I was captivated by all the colors, especially when I first opened the box. Not only did I draw in my own sketchbook at lunch, but after school and on weekends, my parents had to get me a second sketchbook before long. I was obsessed with layering and blending the pastels and drawing whatever I felt like. I drew inspiration from Saturday morning cartoons, my toys, nature, and animals. In high school, my sketchbooks were filled with pencil drawings. As a teenager, I wanted to be able to draw people in proportion. I was really into shading then, and my hands were usually pencil smudged. My sister gave me the book, Drawing on the Right Side of the Brain by Betty Edwards, for Christmas when I was 14. I remember recognizing myself in the passage about how losing all sense of time while drawing. I drew castles from photos on cookie tins and copied images from magazines. My family had moved to Ontario by that time. I hated everything and dressed in black. I barely spoke at school, but at least I had my sketchbook. If my art teacher assigned a drawing for homework, I would do 10. At 18, I worked as an assistant art teacher for the summer at Gale Rock Gallery. We made monoprints. It was my first time ever finger painting, and I felt like I had discovered the meaning of life. Eventually, I went to university and studied studio art and art history. I felt like I had found my people. After that, I juggled pursuing teaching opportunities and exhibitions. I had my first solo exhibition at the Propeller Center for the Visual Arts, and I coordinated their annual Valentine theme exhibition 3 years in a row. before going back to university to get my bachelor in education.
I believe that children are capable, naturally curious, creative, and born to learn. And I think that giving children the chance to actively participate in running cultural institutions can only serve to improve those institutions. Therefore, our art lab assistants are comprised of local youths trained to facilitate the art lab experience, preserving the child's right to make their own creative decisions, encounter problems, and then solve them without undue interference or judgment. All art lab assistants have an affinity with art and will naturally want to make use of the materials during the day. Doing so fosters an atmosphere of creativity. The initial idea for the art lab at the Sutton School of Arts was inspired by my visit to the art studios at Anderson Park in Japan in 1997. There was a hum of creativity about the place and beautiful facilities. Since then, I also learned about the self-directed learning approach of the schools Reggio Emilia and their view of the child. The project Haircuts by Children and the book by the same title written by Erin O'Donnell were also influential. And of course, I was moved by vivid memories of my own childhood art supply deprivation.
Un grand merci à Cathy pour ce magnifique texte. On va maintenant parler avec sa fille Chloé, qui a participé au projet dans ses tout débuts.
Hi, my name is Chloe. I worked at the art lab with my mom a couple years ago when it first started, and I'm a student at CEGEP.
Hey, Chloe, thank you for joining us on the show. So your mom, Kathy, was a founder of the project, and we feel yes. so lucky to still have this program running to the present day. I was wondering, what was the experience like for you in those early days?
I'd say it was a really good experience. It was my first real job, I'd say. And I was really fortunate to do it in such a nice environment. The open environment was really like very beautiful, the outdoor area. And Anne-Marie was very kind and I felt comfortable working there.
That's amazing. Or did it influence your own creativity?
I'd say, yeah, because I found like during the slow days when there wasn't too many people coming, I was able to just do my own artwork, like draw more. And I felt like I didn't have that much time to do it in the summer, but having this job allowed me to make use of the materials there.
Yeah, it is an awesome creative job for a young person, right? You get to be in an art studio with doors open into the garden, and then you get to create with people. Was it mostly kids that you were working with?
Yeah, it was mostly young children.
That's awesome. So do you want to tell me a bit about the project, what it is really?
Sure. Well, it was set up to be a free space for mostly children and even parents to do art really themselves. My mom told me not to try to influence them on what they should do. It was very much just like we put the materials out and they can really do whatever they wanted with them. It was like a way for them to express themselves without feeling like pressure as a lesson to show them specific techniques. It was very much just doing it yourself and expressing yourself that way.
That's interesting. Why do you think it's important for kids not to have pressure when they're creating?
Well, I think, in my opinion, it's to show them how to develop their own sense of creativity and what they like doing, so they don't feel like they should be good at something, just to see what they like before they try to hone in on different techniques and stuff like that.
I'm so happy that you were able to join us today for this interview, Chloé. Thank you so much.
No problem. Thank you for having me.
Vous écoutez Portrait Vivant, une émission de l'École d'art de Sutton et de CIDA 99.fm en Estrie. Aujourd'hui, on explore le thème du Labo d'art, des stations créatives pour enfants et adultes. J'ai eu l'opportunité de discuter avec Alain, artisan et ébéniste d'Abercorn, qui nous parle de l'histoire de l'iconique grande table dans l'espace du Labo d'art.
Hi, my name is Alan, and I've been at Sutton Abercorn since 1980. And we had a small woodworking company. And one day I had the opportunity, I worked for a lot of people in Westmount around Montreal. And we were doing a renovation on this house right beside the oratory, the old chapel originally built by Frère André And he was in charge of firewood all around in those days when you read the history. So we cut a lot of trees and he figured that I should plant more trees. So apparently he made this huge circle of oak trees right around the old chapel. And even though the old chapel's been moved twice, but he did it on the original one, and this tree fell out of bounds, and we were going to put an addition on these people's house. This was a tree, 30 inches in diameter, and it went straight up like an arrow, 40 feet high. It was incredible. So anyway, I was doing design work there, and they were cutting this tree down for an addition, and they asked me what to do with it, and I said, well, I'll take it. So I got a big truck and I took it out here and we sliced it right down the middle, but 4 inches on each side. So we made a slab right out of the heart, 4 inches, and opened it up like a book and glued it back together. And so you have the book image of the tree, like all the grain is symmetrical, yeah. Kind of inside the thing.
That's amazing. That's the table now that is in the large space where all the children work around
and eat all the time. Yeah.
So do you think that Brother Andre planted this tree?
I do. I mean, we'll never know, but it was right in the ring because somebody told me the story, so I walk and you could see this ring of trees, and this one's missing, you know?
I think the founder, Anne-Marie, took it as a very symbolic gesture that you brought her the table. It brought a special energy to the project that she was building.
I mean, it's a work of art, and here we are in art school, right?
Yeah, absolutely. Did you say that you were embedding some gold powder on it, too?
Well, like in many woodworking projects, when you have an old tree like that, there's like a hole or a defect in the thing, and a crack where it cracks, or a branch came out. So real gold leaf powder. Real gold powder mixed with epoxy. A lot of people do it with turquoise powder and stuff in New Mexico. It's, I don't know if you've seen the look, you know, but I did it with gold and filled the tracks with gold.
Is there something symbolic about the defect, the most beautiful gold part?
That's it. It's like people's blemishes are their trademark, kind of. You know what I mean? When somebody has a mole on their cheek, it becomes like a beauty mark.
Yeah. It's a pleasure to meet you today and hear about this journey. Thank you so much.
Thank you so much.
Aujourd'hui sur Portrait Vivant, une émission de l'École d'art de Sutton et de CIDA 99.fm en Estrie, on parle du Labo d'art à Sutton. Je suis avec Catherine Dupont, maman de 3 enfants. Nouvellement arrivée à Sutton.
Bonjour, je m'appelle Catherine Dupont, je suis maman de 3 enfants, nouvellement arrivée à Sutton depuis 1 an. Quand on a découvert que le dimanche, des fois, on sait pas quoi faire, le samedi, on a déjà lavé la maison, fait la vaisselle, rangée, toute la routine plate. Et là, le dimanche, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dimanche? Et on se rend à l'école d'art pour le labo d'art. Là, t'as tout le temps quelqu'un qui t'accueille sur place puis qui a pensé à une genre de petite thématique ultra accessible. C'est pour tous les âges, qui nous encourage à découvrir. Je pense qu'une fois on est venu, ils nous encourageaient à découvrir l'univers de Andy Warhol. Et puis en tout cas, c'est vraiment génial. Puis ils s'adaptent. Moi, ma grande de 9 ans, elle est plus curieuse, donc ils vont vraiment lui expliquer une démarche créative plus précisément. Puis avec les petits cocos de 4 et 6 ans, ils vont les encourager. Des fois, ils vont leur donner une nouvelle méthode technique pour du collage, du découpage, encourager à mettre des paillettes. Donc nous, c'est ça. C'est vraiment notre petite bulle créative de la fin de semaine quand on a la chance de venir. On adore ça.
Restez à l'écoute de Portraits Vivants pour poursuivre la découverte de celles et ceux qui font vivre l'art sous toutes ses formes dans notre région. Aujourd'hui, on parle du Labo d'art à l'École d'art de Sutton et on a la chance de discuter avec Julie Valois, une artiste multidisciplinaire et médiatrice culturelle. Bonjour Julie, je sais que tu es une personne vraiment impliquée dans ce projet depuis ses débuts. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu?
Oui, en fait, le Labo d'art, c'est avant tout une forme proposée aux gens d'une manière de créer. Donc, on met à disposition les personnes une multitude de médiums, d'objets, sans nécessairement avoir une activité qui est complètement dirigée pour permettre aux participants vraiment de laisser libre cours à cette activité puis de laisser émerger en fait le besoin d'être là pendant le moment de création. Ce qui est bien aussi dans le cadre des week-ends, donc le dimanche quand on ouvre au public, c'est qu'il n'y a pas non plus d'espace-temps précis auquel il faut réaliser en fait quelque chose. Puis même réaliser, c'est plus d'explorer. Ce qui fait en sorte que ça crée vraiment quelque chose de propice et différent au niveau du rendu. Donc on n'est pas là-dedans, on est vraiment plus dans l'exploration. Là, pour faire du bien.
Oui, absolument. Et en fait, quand j'ai découvert l'école d'art de Sutton, je suis venue aux portes ouvertes et j'ai tellement apprécié dans cet grand espace-là, ouvert au jardin, avec des centaines de matériaux libres de choix et d'utilisation pour tous. C'était quoi l'intention de ce projet-là?
En fait, ça a été initié bien sûr par la direction artistique, par Anne-Marie Lavigne, et aussi en collaboration avec Cathy Catine, qui est une enseignante au préscolaire assez incroyable à l'école primaire de Sutton, côté anglophone. C'est une artiste, c'est une enseignante qui a des approches diversifiées. Et le bonheur et tout ça, c'est que de prendre tout ce qui est mieux des approches autant pédagogiques qu'artistiques et de faire en fait notre propre programme à l'école d'art avec le meilleur selon nous. Au niveau de l'exploration, du développement, de la créativité. Donc, ça a émergé de cette manière-là. Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'était de mettre à disposition du public certaines stations avec des œuvres qui se créaient de manière collaborative ou de manière progressive. Donc, ça veut dire on faisait une première installation et chaque passant pouvait poursuivre l'activité. Donc, il y avait cet esprit collaboratif, aussi d'ouverture. Donc, on n'est pas dans la solitude, mais plutôt dans le fait de pouvoir justement explorer. Par la suite, c'est ça, on a transposé ce concept-là aussi en sortie culturelle. Donc, il y a vraiment l'aspect aussi esthétique qui est assez présent, c'est-à-dire que la manière dont les matériaux sont disposés. Donc, c'est de créer des stations. Donc, avec différents médiums aussi. Donc, ça peut être une manière aussi d'explorer. Ça peut être des œuvres collaboratives, c'est-à-dire un participant passe, puis là, il laisse quelque chose déjà amorcé, puis l'autre participant vient lui aussi mettre sa touche donc dans le projet. Une œuvre qui est non finie, parce que l'art, c'est ça, il y a toujours une nouvelle porte vers autre chose par rapport à l'imaginaire d'un et chacun qui participe par rapport aux visions aussi, par rapport à un seul objet. L'autre aspect aussi qui est super intéressant, tu peux créer vraiment peut-être une particularité, c'est la manière comment on dispose les matériaux et comment qu'on organise dans l'espace. Donc, on s'assure toujours que ce soit à hauteur d'enfant, c'est-à-dire on va même utiliser le sol pour aller s'asseoir au sol. De la manière qu'on dispose, de manière les matériaux, donc soit par ordre chromatique, par matière. Donc il y a vraiment un aspect visuel qui est attirant, qui est beau.
Ouais, c'est vraiment marquant en fait le côté visuel, c'est très attirant. Ouais. Et c'est très très inspirant. On dirait que la nouvelle génération de jeunesse est de plus en plus occupée, a de plus en plus d'activités guidées. Je me demande, pour toi, comme éducatrice, quelle est l'importance du libre jeu et de la libre expression pour la nouvelle génération? De créer des espaces, en fait, où on ne leur donne pas de consignes.
Ben, je pense que ça va vraiment avec les valeurs de l'école, en fait. C'est ça, de permettre aux enfants de développer la créativité, c'est ça, c'est ce qui va permettre en fait à notre société d'évoluer. Je pense que c'est de cette manière-là. Puis c'est quand les erreurs apparaissent, de là ont émergé les plus belles inventions. Donc c'est de se permettre le droit à l'erreur, c'est de se permettre d'explorer, c'est de se permettre d'aller aussi se voir à travers la matière, ça va être de mieux se comprendre à travers la matière, se découvrir, s'identifier aussi, donc de voir c'est quoi ses propres idées, comment on peut les matérialiser d'une certaine manière en explorant. Je pense que le fait justement de laisser ces espaces libres-là, au début, c'est concertant, pour la plupart. Puis là, il y a comme un petit moment de « est-ce que j'ai le droit? Est-ce que tu veux? » Puis ce qui est beau après ça, c'est quand on ouvre la porte à ça, il y a une appropriation aussi. Donc, il y a une confiance en soi qui se développe. Je pense que ça, c'est super intéressant. Puis le jeu, je pense que ça rend heureux aussi. Ça te permet d'explorer. Donc, cette notion-là, bien, ça permet vraiment de se développer autrement. Donc, je pense que c'est vraiment important de se vraiment écouter autrement parce que justement, si on nous indique toujours quoi faire, cet accès-là à soi, il est moins facile ou en tout cas, ces espaces-là. Je pense que ça permet justement d'avoir accès à soi puis au monde qui nous entoure puis de créer notre propre conception aussi du monde qui nous entoure.
Ouais, absolument. Quel est le moment, en fait, où... Comment tu fais pour les ouvrir à cette attitude de liberté? Ou est-ce que c'est quelque chose d'inné, en fait, chez l'enfant, qui sont programmés pour jouer, en fait? Ils sont construits pour ça. Donc, c'est juste de leur donner permission, en fait, de revenir à eux-mêmes.
Oui, je pense que exactement. Puis, quand on dit les enfants, mais c'est aussi les adultes. Je pense que ça fait partie de nous, le jeu, de se permettre ces espaces-là qui sont sécuritaires aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de l'école d'art, c'est un lieu qui est magnifique, qui est sécuritaire, dans lequel on peut justement s'exprimer librement. Que ça passe par le jeu, je pense que justement, ça permet vraiment de développer plusieurs aspects, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau de la créativité, de l'exploration, de se donner droit à l'erreur, ou plutôt de voir de l'erreur, qu'est-ce qui peut émerger, comment on peut transformer aussi, la capacité à transformer, puis à créer quelque chose de positif puis de ça.
Merci beaucoup, Julie. C'était un plaisir de parler avec toi.
Oui, merci à toi, Yana.
Vous écoutez Portrait vivant, une émission de CIDI 99.fm en Estrie et de l'École d'art de Sutton. Le thème du Labo d'art m'a mené au sujet de la création libre et de son importance pour l'enfant. J'ai donc appelé Sylvie Fussade, art-thérapeute résidant à Frelisburg, pour discuter un peu plus du sujet.
Je m'appelle Sylvie Fussade, je suis art-thérapeute. Je vis dans la région depuis 5 ans, ça fait 15 ans maintenant que je suis art-thérapeute. J'ai développé une expertise auprès des jeunes, bien que je puisse travailler auprès des adultes, des personnes âgées, parce que l'art-thérapie n'est pas du tout réservée aux enfants. Mais moi, j'ai voulu plus spécifiquement m'intéresser aux enfants. Et je travaille en pédiatrie sociale à Cowansville, au centre de pédiatrie sociale Main dans la Main, où je fais à la fois des suivis individuels et j'anime des groupes aussi en art-thérapie.
Wow, c'est super intéressant. Et donc, tu es aussi une artiste.
Oui, je suis aussi une artiste, effectivement, parce que je n'envisage pas d'être art-thérapeute sans être artiste. Et finalement, j'en ai fait arriver aussi à la conclusion dans ma vie que je n'envisageais pas d'être artiste sans être art-thérapeute. Les deux sont tout aussi importants pour moi. Donc, ma pratique artistique, c'est les arts visuels. Et c'est une pratique multimédia, on va dire, multidisciplinaire. Donc, je touche à beaucoup de techniques. Ça m'intéresse énormément de travailler avec les différentes matières, différents matériaux, de voir leurs propriétés, de voir comment ça réagit. Donc, pardon. J'ai autant une pratique de peinture, de pastel gras, de pastel sec, mais aussi une pratique de sculpture soft, on va dire, en tissu, puis en objet récupéré. Donc, en fait, j'ai deux formes d'art-thérapie, en fait, une en individuel et une en groupe. Donc, en pédiatrie sociale, c'est l'équipe multidisciplinaire, c'est le médecin qui réfère les enfants qui vont bénéficier des séances d'art-thérapie. J'ai aussi une pratique à la maison où je reçois, moi, sans référence et juste par la pitié, le bouche à oreille et tout ça. Donc, je reçois l'enfant et son parent dans un premier temps, une première fois. Au cours de cette rencontre, j'accorde une demi-heure aux parents et enfants et une demi-heure juste à l'enfant pour faire connaissance et puis pour établir aussi avec l'enfant et le parent les objectifs que vont avoir les séances en art-thérapie. J'ai une approche très structurée, mais toujours prête à laisser de côté ce que j'ai mis en place pour laisser justement libre cours à l'enfant et à ses besoins. Donc, une première partie, ça va être une activité de contact, donc assez courte, où l'enfant va pouvoir déposer ce avec quoi il arrive, les émotions, etc. pas, ce avec quoi il est là tout de suite, ici et maintenant, et qui lui permet de mettre un pied dans l'instant présent, dans le moment présent. Et ensuite, je propose une activité plus à thématique que moi j'ai dégagée en fonction des besoins de l'enfant et puis aussi de là où il en est dans son processus. Et donc, je propose une activité comme de l'argile, de la peinture, un assemblage, peu importe, du dessin. Ça peut être quelque chose à deux, etc. Et donc, l'enfant, ben, soit il va dire « Ok, ça me tente », parce que les enfants, ils sont comme ça. Si ça leur tente, ça va leur tenter. Puis si ça leur tente pas, ils vont te dire « Non ». Je leur dis « Tu peux toujours me dire non ». Dans le fond, moi, j'arrive avec quelque chose pour toi systématiquement, mais moi, je vais te suivre dans tes besoins et dans ce que toi, tu as envie de faire. Et donc, à partir de là, ben, y a une période de création au cours de laquelle l'enfant, justement, va rentrer dans un processus, va déposer selon le thème que je lui ai proposé ou selon ses propres besoins, dans le fond, dans une activité totalement libre, justement. Et ce qui est là, présent avec lui, ensuite, on va pouvoir... discuter un petit peu s'il le souhaite, mais je lui demande un titre, je lui demande un peu de précision sur un personnage, sur un lieu, sur un détail qui me semble important. Puis s'il est capable de me le donner, ben on avance un peu comme ça. Puis sinon, ben, je veux dire, tout est là, donc on est pression, quoi. Wow. Et ensuite, ben, on ferme la séance en regardant comment il va, comment l'enfant va à la fin de la rencontre, et on se quitte jusqu'à la prochaine.
Et je me demande de ta perspective comme professionnelle en art thérapie, quelle est l'importance de la création libre et le jeu libre dans le développement des enfants?
Ben, pour moi, elle est vraiment fondamentale. Je veux dire, c'est quelque chose qui est essentiel parce que l'enfant va savoir où est son besoin, va savoir ce qu'il allume. Ben, c'est lui-même qui va décider. Des fois, il a besoin d'un petit coup de pouce pour l'orienter vers quelque chose,
oui.
Pour tu sais, plusieurs propositions, une, deux, trois, quatre, puis il faut trouver comme l'aider parfois à trouver la porte d'entrée,
oui,
dans son imagination. Mais elle est absolument fondamentale, cette activité libre, parce que ben, l'enfant va pouvoir développer toutes sortes d'habiletés, que ce soit psychologique, que ce soit cognitive, que ce soit physique même. Donc, il va à son propre rythme, alors que c'est en fait que c'est important que ce soit libre, mais qu'il va à son propre rythme évoluer dans son imaginaire, dans son jeu, et trouver des solutions, trouver des idées, mettre en branle son imagination, et développer ainsi toute une autonomie, toute une confiance en lui-même que... il n'aura pas si on lui dit bah, fais ci, fais ça, selon tel processus, etc. Des fois, je ne suis pas contre. Hein. C'est deux démarches différentes et complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a les activités créatives qui ont un déroulement, qui ont quelque chose de très structuré, qui est important de suivre parfois, mais les activités libres, et même donc, dans le sens où c'est une activité libre, mais il y a un adulte qui est là et qui garantit un cadre et qui garantit... le sentiment de sécurité qui va permettre à l'enfant de se laisser aller dans son imagination.
Mmh. Oui, c'est intéressant ce que tu dis de trouver confiance et développer en fait ses propres solutions, la confiance en ses propres idées avec cet accompagnement bienveillant de l'artiste ou de la thérapeute.
Tout à fait, oui. Un accompagnement bienveillant, il sait que l'enfant doit savoir qu'on est présent à lui, qu'on peut lui apporter un petit soutien technique s'il y a besoin. Mais aussi et surtout, c'est porter de l'intérêt à ce qu'il fait, le valider dans ses choix. C'est là où il va récupérer de la confiance s'il en manque. Il va consolider la confiance en lui s'il en a déjà. Et donc, il va y avoir aussi une forme d'interaction. Donc, quand l'enfant est seul, mais quand les enfants sont en groupe aussi, parce que il y a aussi toute l'approche en art-thérapie de groupe ou en activité de groupe, ou même là, je trouve que les activités libres sont essentielles. C'est-à-dire que même dans les groupes que je propose, je dis d'emblée aux jeunes qui sont là, aux enfants qui sont là, si ma proposition ne te convient pas ici et maintenant, et que toi, tu as besoin de faire autre chose, vraiment, je t'encourage à le faire, puis je vais être là pour toi pareil. Alors, ça donne des groupes un peu hybrides où certains vont suivre la proposition, d'autres vont suivre leurs besoins, et donc ça favorise aussi Ben souvent, les interactions, les échanges, et puis aussi le fait de respecter l'autre dans ce qu'il a besoin. C'est-à-dire que, par exemple, les enfants qui vont suivre les propositions vont regarder l'enfant qui, lui, n'a pas choisi de suivre la proposition, ils vont le respecter entièrement pour ce qu'il est, pour ses besoins à lui. Et il y a une belle écoute et une belle compréhension qui peut s'installer et de beaux échanges aussi.
Wow, c'est tellement intéressant. Ben, j'encourage nos auditeurs à découvrir votre travail à Artemus, à Frelinburg.
Ah ben oui.
C'est tout un magnifique service que vous offrez à la communauté. Je vous remercie d'avoir pris un moment avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup de votre intérêt.
Quelle émission remplie de magnifiques rencontres. J'espère que vous avez apprécié cette émission sur le Labo d'art de Portrait Vivant, une émission de CIDA 99.fm en Estrie et de l'École d'art de Sautène. Maintenant, on passe à notre segment musique. Découvrez des artistes locaux de musique folk, contemporaine et classique. Restez des nôtres. Thank you.
C'était Horizon de l'album d'Alain Auger, Siluja. On va maintenant écouter Beau de Franny Holder. Vous écoutez Portrait vivant, une émission de l'École d'art de Satène et de CID à 99.fm en Estrie. On continue notre segment musique avec We Rise de Patrick Simard et Gaïa Yu.
Each time, yes, we rise. the same ones who wish to divide. I understand, I feel your pain. I can't imagine where you've been. Love, compassion, grace and patience is how I choose to relate to you. For all relations are relations to It's time, it's time, it's time, it's time, it's time, it's time. We rise. Each time, each time, each time, each time, each time, each time. Yes, we rise. We rise.
Through the dark night we walked and stumbled upon our fears.
C'était We Rise de Patrick Simard et l'invité Gaia You. Patrick Simard est un artiste qui a fait des tournées internationales avant de s'installer ici en Estrie. Il est venu collaborer au camp de portraits vivants, le camp radio à l'École d'art de Sutton. Claire Leslie Turnbull et Zach Bachan avec la Ave River Waltz. On va maintenant écouter deux grands artistes, Silence de Elisabi Isaac et Entre amis par Alain Auger.
Murmurant
C'était l'émission Portrait vivant de l'École d'art de Sutton et de CIDA 89.fm en Estrie. À très bientôt pour une autre émission sur tout ce qui fait vivre la créativité dans notre région.
Ce projet est rendu possible par le gouvernement du Canada ainsi que le Fonds canadien de la radio communautaire.
Merci de vous être joints à nous pour cette émission de Portrait vivant, une émission de CIDA 89.fm en Estrie et de l'École d'art de Sutton. À la prochaine pour une autre émission sur le thème de l'art et de tout ce qui fait vivre la créativité dans notre région.